enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Évangile selon Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, verset 5. Matthieu, chapitre 8, verset 5. On va lire ce passage en guise d'introduction. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi et à l'heure même. » Le serviteur fut guéri. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire d'un centenier? Un centenier. Remarquez, dans Astérix Obélix, c'est ce qu'on appelle un centurion. C'est la même chose. Un centenier. Un chef romain qui a une centaine de soldats sous ses ordres. Ce centenier vient chercher Jésus, qui rentre à Capernaum, et qui lui dit, viens parce que mon serviteur, ça vous rappelle quelque chose le mot serviteur? Oui, quelqu'un qui sert. Mon serviteur est malade. En d'autres termes, mon serviteur ne peut plus servir. Mais notez bien que si le centenier vient vers Jésus, c'est pas seulement pour lui dire, mon serviteur est atteint de paralysie. Et il ne peut plus servir. Seigneur, j'ai acheté un serviteur, j'ai acheté un esclave, cher, et voilà qu'il ne sert plus à rien, il n'est plus sous garantie. Est-ce que tu peux faire quelque chose, Jésus? Non, ce n'est pas comme ça que le centenier vient voir Jésus. Il dit, oui, mon serviteur est paralysé, il ne peut plus servir. Mais lui dit aussi, est souffrant beaucoup. Le centenier ne voit pas seulement le fait que son serviteur ne peut plus servir. Il voit aussi que c'est un homme qui est en train de souffrir. Et il vient vers Jésus avec cette double préoccupation. J'ai un serviteur paralysé et j'ai un serviteur qui souffre beaucoup. Et pourquoi vient-il voir Jésus? Parce qu'il sait que Jésus a les mêmes préoccupations. Jésus ne veut pas voir des serviteurs paralysés. Des fois on dit « je suis paralysé par la peur ». Paralysé par l'angoisse, paralysé par toutes sortes d'affaires, paralysé et souffrant beaucoup. Jésus est celui qui est venu guérir, afin que le serviteur ne soit plus paralysé et qu'il ne souffre plus, mais qu'il puisse servir. Voilà que le centenier va dire à Jésus, Jésus lui dit, je vais venir, et le centenier dit, non, je ne suis pas digne que tu viennes sur mon toit, mais voilà ce que je crois. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Voilà un homme qui confesse sa foi à Jésus, qui dit, Jésus, je sais que tu imposes les mains aux malades, et que quand tu touches le malade est guéri. Je sais, Jésus, qu'il y a une femme qui est venue vers toi, elle était malade depuis 12 ans, elle a seulement touché le bord de ton vêtement, et elle a été guérie. Mais Seigneur, je crois qu'un mot de toi suffit. dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et le centenier s'explique. Il dit, voilà, parce que moi qui suis chef romain, moi qui suis soldat, quand j'ai des soldats sous mes ordres, je leur dis seulement un mot et ils l'exécutent. Ils obéissent. Est-ce que je suis le seul à avoir été dans l'armée ici? Oui? Oh! Ah, de mon âge, on varie qu'il est trop jeune. Mais de mon âge, l'armée était obligatoire de mon temps en France. Bon. Quand on est dans l'armée, mais il y a des cadets là, il y a des cadets de l'air là, ils savent ce que c'est. Dis seulement un mot. Si le sergent dit, donne un ordre, dans l'armée on exécute. Mais ce chef romain dit, quand je donne un ordre à l'un de mes soldats, à l'un de mes 100 soldats, centenier, il a une centaine de soldats sous ses ordres, quand je dis un mot à l'un de mes soldats, il l'exécute. Mais il dit aussi, moi j'ai des supérieurs. Et quand le général me donne un ordre, je l'exécute. Et pourquoi dit-il cela à Jésus? Il dit, parce que je crois, Jésus, que toi, tu es en haut de la pyramide, que toi, tu as tout pouvoir, toute autorité, et que rien ici-bas dans ce monde ne peut pas exécuter tes ordres. Dis seulement un mot, donne seulement un ordre, et mon serviteur sera guéri, et la maladie quittera son corps. Et il sera guéri. Voilà ce que croit cet homme. Et Jésus va rendre témoignage à la foi de cet homme. Et il va dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parce que cet homme croit dans l'autorité spirituelle de Jésus. Dans sa position comme étant chef. Et que Dieu lui a remis toute autorité. Il avait dit à Jésus, dis seulement un mot. Et Jésus va dire seulement un mot. Non? Lequel? Va. Non? C'est bien quoi? C'est court, c'est bref. Va. Simplement, va. Tu es venu chercher quelque chose, tu peux retourner en paix. Va. À l'heure même, son serviteur a été guéri. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur. Et là, on retrouve le qualificatif du début. Au départ, il était dit un serviteur qui était paralysé et qui souffrait. Et maintenant, on revient avec ce mot, le serviteur fut guéri. Fut rétabli dans son rôle de serviteur. Un serviteur qui peut à nouveau servir et un serviteur qui ne souffre plus. Quand on souffre parce que l'on sert, c'est une anomalie. Celui qui souffre, c'est celui qui ne sert pas et qui est paralysé. Le serviteur était paralysé et souffrant beaucoup, mais maintenant qu'il a été guéri, il peut servir. Et comme on le disait ce matin, servir avec joie. Et vous savez, les évangiles sont ainsi écrits. Des fois, on a tendance à découper les histoires. On dit, oui, il est question de l'histoire du centenier. Ensuite, il est question d'une autre histoire. Ensuite, il est question d'une autre histoire. Comme si c'était un livre avec plusieurs histoires qui étaient juxtaposées les unes au bout des autres. Plusieurs histoires qui étaient les unes à la suite des autres, sans qu'il y ait d'enchaînement. Sans qu'il y ait de suite. Non, il y a une suite. Si on trouve cette histoire dans Matthieu 8, de 5 à 13, cette histoire, comme je le disais tout à l'heure, est comme une introduction, en tout cas, précède une deuxième histoire. Du verset 14 au verset 17. Et cette histoire n'est pas une histoire qui n'a plus rien à voir. Elle fait suite. Et elle vient parler encore de service. Regardez, Luc, chapitre 8, verset 14. J'ai dit Luc, Matthieu. J'aime bien Luc, mais on est dans Matthieu. Matthieu, chapitre 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Pourquoi est-ce que on a cette histoire-là tout de suite? Voilà que Jésus arrive dans la maison de Simon. Bon, sa belle-mère est malade, Jésus l'a guérie. On n'en sait rien, on ne sait rien de plus. Mais ce qui est important dans les termes de cette histoire, c'est qu'elle a été guérie, et suite à sa guérison, elle se leva et le servit. De la même manière, Dieu est celui qui veut nous guérir, afin qu'on se lève et qu'on le sert. Le serviteur du centenier romain était paralysé. Par définition, quelqu'un de paralysé ne peut pas se lever. Cette femme, la belle-mère de Simon, Pierre, est couchée, atteinte de fièvre, d'une forte fièvre, nous dit un autre évangile. Il touche sa main, la fièvre la quitte, elle se lève et elle le sert. C'est moi vous dire que Dieu veut enlever de nous la fièvre. Je ne parle pas seulement de la fièvre du samedi soir. Allez, les jeunes, ils ne comprennent pas, c'est trop vieux ça. Hein? Je ne parle pas seulement de ce genre de fièvre-là. Mais enfin, veut nous enlever de tout ce qui nous empêche de le servir. Parce que nous avons été faits, nous avons été créés, nous avons été formés pour servir Dieu. Mais il peut y avoir toutes sortes de paralysies, il peut y avoir toutes sortes de souffrances, il peut y avoir toutes sortes de fièvres et de maladies qui nous empêchent de le servir. Et Jésus est celui qui va guérir le serviteur de ce centenier romain afin qu'il puisse servir à nouveau. Et il est celui qui va guérir la belle-mère de Simon Pierre, afin qu'elle puisse servir à nouveau. Peut-être quelqu'un dira, quand même, il exagère, Jésus. Voilà que cette femme est guérie, elle avait la fièvre, il pourrait lui laisser un peu de repos. Imaginez, vous êtes au lit avec 42 fièvres. 40 ou 42, comme vous voulez. Ça en fait, hein? En degré Celsius, hein, pas Fahrenheit. Hein? On agonise. C'est le coma, quasiment. Et voilà que Jésus relève le malade et que quelques secondes après, on dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce que tu nous sers? Hé, attends, je suis en convalescence, moi. Ah, j'étais quasiment mort. Voilà que maintenant, je suis debout. Il faut que j'y aille doucement. Il faut pas que j'aille trop vite. Et attendez, elle a été guérie. Et quand Jésus guérit, c'est pas seulement un petit mieux, c'est transformé radicalement. Et comprenez bien que quand Jésus vient guérir notre âme, vient nous sauver, vient nous délivrer, c'est pas pour dire, bon, j'ai été sauvé il n'y a pas longtemps, laissez-moi un peu de convalescence avant que je puisse commencer à servir. Non, la vie a changé. Avant, on était, oui, comme paralysés à cause de toutes sortes de choses, on ne pouvait plus servir, on ne servait à rien. Mais maintenant que Jésus nous a guéris, maintenant que Jésus nous a sauvés, et comprenez bien qu'en grec c'est le même mot, sozo, mais qu'il nous a sauvés, qu'il nous a guéris, eh bien, on est appelé à le servir. Dieu nous appelle à le servir. Cette femme a été guérie de sa fièvre, et aussitôt, elle servit Jésus. Dire, oui, mais Jésus se laisse servir comme ça. Regardez ce qui se passe. Ensuite, parce que comme je vous l'ai dit, les petites histoires s'enchaînent et elles ne s'enchaînent pas dans n'importe quel ordre. Il y a une progression et il y a tout un enseignement. Quand on est dans l'histoire, on a un enseignement au niveau du récit, au niveau de l'histoire. Et quand on prend du recul, on voit les choses d'un peu plus loin, même si on voit trois histoires ou quatre histoires qui s'enchaînent, on voit un enseignement qui relie ces quatre histoires. Regardez au verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le chapitre 8 commence avec le verset 1er, on ne l'a pas lu, mais c'est le début de la journée. Au début de la journée, alors que Jésus descend de la montagne, il nous est dit qu'une grande foule était là. À peine Jésus commence sa journée, qu'il y a là une grande foule. Il y a là un lépreux à être guéri. On voit Jésus qui sert, qui bénit toute une foule. Ensuite, c'est l'histoire de ce centenier. Ensuite, à la fin de la journée, il arrive dans la maison de Pierre. Il guérit la belle-mère de Pierre qui est en train de les servir. Et alors qu'il fait nuit, alors que c'est le temps de se reposer de cette grande journée, Jésus se retrouve encore à servir. Et on voit que la foule est là. On amène à Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit toutes les maladies. Et on voit ça souvent dans l'Évangile. Jésus qui est là comme notre exemple, qui sert les autres, qui sert Dieu en servant les autres. Et qui a des journées qui font je ne sais pas combien d'heures. Enfin, c'était long. Ça commence très tôt le matin et ça finit tard le soir. Et Jésus n'est pas en train de dire, comme les disciples pouvaient le dire à un moment, « Renvoie-les, Seigneur, parce que, il faut qu'on mange maintenant, ça fait plus... » Et Jésus dit, « Non, on ne va pas les renvoyer comme ça. On va les servir encore. Et on va leur donner à manger. Donnez-leur à manger. » Et il va y avoir une multiplication des pains pour que toute une foule soit nourrie. Les disciples, eux, voulaient que Jésus renvoie la foule afin qu'ils aillent chercher à manger chacun de son bord. Mais Jésus dit, on va les servir. De la même manière, nous aussi, nous sommes encouragés, exhortés à servir. Jésus a donné de son temps, de sa personne, n'a pas compté ses heures, mais par amour, par compassion, va servir jusque tard le soir, va chasser tous les démons par sa parole. Notez le lien, la connexion avec « dit seulement un mot ». Et là, avec seulement un mot, des démons vont être chassés. Ensuite, des malades vont être guéris. Afin que s'accomplisse cette parole, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Voyez-vous, Jésus est allé jusqu'à, est allé pour nous servir, jusqu'à prendre sur lui. Jusqu'à prendre sur lui. Pas seulement délivrer quelques, mais il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités, selon la parole du prophète Ésaïe. Jésus nous sert jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie, afin que nous ne mourions pas, mais que nous soyons affranchis, libérés. Jésus est allé jusqu'à mourir sur le bois de la croix, et que, afin que par cette mort, nous soyons délivrés, affranchis, que le poids de nos péchés, que le salaire du péché qui était sur nous, que la condamnation qui était sur nous à cause de nos fautes, de notre péché, de nos transgressions, de notre rébellion, que cette condamnation soit effacée, que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient soit cloué à la croix et qu'il soit écrit dessus « C'est payé ». Vous savez, des fois, quand on va acheter quelque chose chez le fournisseur, si vous allez chez La Ferté acheter des matériaux, vous avez une facture. Et quand vous payez la facture, ils ont un gros tampon rouge, une grosse étampe rouge. Payé. Vous avez vu ça? Non? Vous payez jamais vos factures? Il y a une grosse étampe rouge où il y a marqué « Payé ». C'est ce que Jésus a fait. Nous avions un compte vis-à-vis de Dieu. Et nous devions beaucoup. Et Jésus est venu payer à notre place. Afin que sur l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, afin que sur notre facture, notre état de compte, y ait marqué « payé ». Peut-être certains ont vu cette publicité pour Visa, où le monsieur attend son relevé de visa et se dit « Aïe, 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 ça va me coûter cher encore ce mois-ci. » Et il voit 0 $. C'est payé. Et c'est comme ça que ça se passe avec l'Évangile. Jésus a payé pour nous. Et quand Jésus s'exclame sur la croix, « Tout est accompli », c'est le même terme technique qui était utilisé à l'époque sur les factures non payées. Lorsqu'elles étaient payées, on mettait une marque, « Tétanestai », « Tout est accompli », « Tout est payé », on ne doit plus rien. Mais quand Jésus s'écrit « Tout est accompli », c'est comme s'il y avait un coup de tampon payé qui venait sur chacune de nos factures. Si du moins nous voulions les présenter à Jésus. Et un Seigneur, tu as payé pour moi. Ou quelqu'un dira, non, non, moi je veux payer moi-même. Tu veux payer toi-même? L'homme ne peut se racheter de lui-même sur la terre. Payer toi-même, ça veut dire être condamné. Être condamné à la mort éternelle. C'est ton choix. Quelqu'un dira, moi je ne veux pas que Jésus paye pour moi, je le mérite. Oui, on le mérite tous. Mais c'est par amour qu'il nous a aimés, afin que nous ne soyons pas perdus pour une mort éternelle, mais que nous soyons sauvés, délivrés. Non pas pour que nous soyons là, perdus, comme on l'a lu à la fin du récit du centenier, dans ces ténèbres où il y a des pleurs et des grincements de dents, mais pour qu'on soit sauvés. Et pour cela, qu'y a-t-il à faire? Rien. Il n'y a qu'à croire. Il n'y a qu'à accepter le fait que Jésus ait payé pour nous. Et dire, oui Seigneur, j'accepte que tu payes à ma place. Et je t'en suis extrêmement reconnaissant. Parce que tu as tout payé pour moi. Je ne le méritais pas, j'en étais pas digne, mais tu as tout payé. Tout est accompli. Ça a été payé. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Nous étions autrefois des esclaves, mais esclaves du péché, dit l'apôtre Paul aux Romains. Nous étions autrefois sous la tyrannie d'un maître méchant, le diable. Mais Jésus a payé le prix de notre rançon, afin que nous soyons affranchis, libérés, que nous passions de l'état d'esclave à homme libre. Mais maintenant que nous sommes libres, c'est de notre liberté, maintenant que nous sommes libres, qu'allons-nous faire de notre liberté? La belle-mère de Simon n'était pas obligée de servir Jésus. Vous avez noté qu'il y avait une progression, le serviteur du centenier était déjà serviteur par nature. Mais la belle-mère de Simon, elle, était chez elle. Mais parce qu'elle a été guérie, relevée, libérée de sa fièvre par Jésus, elle décide de le servir. Il n'y a aucune demande, il n'y a aucune réclamation, il n'y a rien d'imposé. Mais c'est un acte d'action de grâce et de reconnaissance. Et elle dit, Seigneur, tu m'as libérée, tu m'as guérie, tu as pris mon infirmité. Et en retour, je veux t'offrir mon service. Je veux te servir. Jésus servait les autres et il nous invite maintenant à le servir. Et si nous avons été guéris, si nous avons été sauvés, s'il nous a rachetés, pouvons dire, oui, ben maintenant nous sommes libres et de ma liberté, j'en fais ce que je veux. Oui, vous en faites ce que vous voulez de votre liberté. Mais s'il y a dans votre cœur un soupçon de reconnaissance, cette reconnaissance va vous pousser et vous amener à le servir. Non? Est-ce qu'il y a un peu de reconnaissance dans votre cœur? Est-ce qu'il a fait un peu pour vous ou il a fait beaucoup pour vous? Est-ce qu'il vous a sauvé, délivré, affranchi? Hey, il y avait une dette sur mon compte, vous ne pouvez pas savoir. Non, pas vous. Non, mais en tout cas, moi, c'est comme ça. Mais il a tout payé. Je ne dois plus rien. Comme dit l'apôtre Paul aux Romains encore, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, en termes de reconnaissance. Je veux te servir. Je veux que ma vie te serve. Et quelque part, d'une certaine manière, tu l'as achetée, cette vie. Et je veux que cette vie, pour laquelle tu as payé si cher, elle puisse t'être utile. Et que tu puisses être béni, honoré, réjoui au travers du service de cette vie que tu as achetée, payée si cher. Regardez comment ça suit, le récit. Donc, on a plusieurs récits qui suivent, et il y a une logique là-dedans. Verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha de lui et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » On voit l'histoire d'un serviteur qui ne pouvait plus servir et qui a été guéri pour servir à nouveau. On voit l'histoire de la belle-mère de Pierre qui était alitée et qui va être guérie de sa fièvre et qui va servir. On voit Jésus lui-même dans la position de serviteur. Et il va servir toute cette foule, guérir les malades et chasser les démons. Et on voit ensuite ce récit d'hommes, un scribe, un autre d'entre les disciples, qui vont dire, « Seigneur, Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Est-ce que vous avez dit ce genre de phrase à Jésus un jour ? « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » L'apôtre Pierre, un jour, a dit cette phrase à Jésus. « Jésus, je te suivrai partout où tu iras. » Tout le monde va t'abandonner. Je les connais, les 11 autres sont tous des lâches, mais pas moi. « Je te suivrai partout où tu iras. » C'est ce que Pierre va dire à Jésus. Et pourtant, il va le renier par 3 fois. Est-ce que nous avons dit un jour à Jésus, je te suivrai. Je veux te suivre. Je veux marcher dans tes voies. Je veux marcher à ta suite. Je veux que tu sois mon maître. Nous sommes tes disciples. Et je veux marcher avec toi. Et Jésus va enseigner et nous enseigner aujourd'hui au travers de ces deux exemples sur l'implication que représentent ces mots, je veux te suivre. Jésus va dire que ce n'est pas des mots seulement. Ce n'est pas un voyage. Ce n'est pas un circuit touristique. Quand tu dis « je veux suivre Jésus », c'est aller partout où va Jésus. Non ? Quand ma femme m'a dit « je vais te suivre », elle ne savait pas où elle allait. Ça l'a amené loin. Oui. Quand on dit à quelqu'un « je vais te suivre », avant de dire à quelqu'un « je vais te suivre », il ferait mieux de lui poser la question « où vas-tu ?» Parce que si vous dites à quelqu'un « je vais te suivre » et puis qu'il vous dit après « je vais à, dans le Nunavut qui voûte, là, Nunavut, dans le Nunavut, là, chez les Inuit, quelque part tout en haut sur la côte nord, hein, ah, je pensais que tu allais dans le sud. » Est-ce qu'on est prêt à dire à Jésus, je vais te suivre, quelle que soit la route, quel que soit le chemin? Et Jésus, au travers de ses réponses, c'est en fait ce qu'il est en train de dire. Il dit, attention, est-ce que tu sais ce que cela représente? Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont un nid, mais quand on décide de suivre Jésus, c'est l'aventure. Il n'y a plus de tanières et il n'y a plus de nids. Il n'y a peut-être plus de sécurité, d'endroit douillet. On est dans son nid douillet. On est bien dans un nid douillet, non? Dans sa tanière, là au chaud, il y a du vent dehors, mais dans la tanière, il fait bon. Mais quand on dit « je vais suivre Jésus », Ça nous amène à l'aventure. Abraham partit sans savoir où il allait. Dites-moi, vous qui avez décidé de suivre Jésus, jusqu'où ça vous a amené? Est-ce que ça vous a fait sortir d'une zone de confort, d'une tanière, d'un nid douillet? Est-ce que ça vous a amené à plus de 6000 kilomètres de là où vous étiez auparavant? Ce n'est pas forcément géographique aussi, ça fait toute une aventure. Une aventure professionnelle, une aventure de choix, de décision. Quand on suit Jésus, est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Vous savez, les premiers chrétiens, premier siècle, quand ils disaient « Moi, je suis Jésus », ça pouvait les amener jusque dans l'arène, avec des lions. Vous avez déjà été dans l'arène? Moi, j'ai déjà été dans l'arène. Ouais, il n'y avait pas de lions, mais c'était une arène. À Nîmes, il y avait des arènes romaines, là. Non, mais il y avait la corrida, par contre, dans l'arène. Là. Mais bon, déjà dans l'arène. Mais imaginez, dans l'arène avec des lions. Seigneur, je vais te suivre. C'est par là. Il y a des lions, là, dans l'arène. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller? Eh, hey, bénissons Dieu, hein, on est au Québec, là. Il n'y a pas de lion ici. Il n'y a pas de lion pour l'instant. Vous savez, on est dans un monde qui est complètement fou. Que se passera-t-il dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans? Et si la mentalité changeait au Québec? Et que tout d'un coup, être chrétien pourrait être amené une condamnation, condamné à mort à cause de votre foi. Oh, je ne suis pas sûr que ça me tenterait d'être chrétien. C'est ça que vous allez répondre? Jusqu'où est-ce qu'on serait prêt à aller? Généralement, le mari dit à sa femme, « Je décrocherai la lune pour toi. » Non? « Je suis prêt à aller jusqu'au bout du monde pour toi. » Non? Ce n'est pas ce qu'ils disent les maris? Les femmes, c'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la Saint-Valentin, là? Est-ce que les hommes ne sont pas prêts à tous les sacrifices pour leur épouse, là? Non? De mon temps, ce n'était pas comme ça, hein? C'est rendu quoi les couples aujourd'hui, là? Les hommes veulent plus s'engager, là. Ils ont trop peur, ils savent si ça vous amène, hein? Non. Quand on a des enfants qui sont dans une maison et que la maison a pris feu, oh, ça ne me tente pas de risquer de me brûler pour aller chercher mes enfants dans la maison. Hein. On va attendre les pompiers, ils vont être là bientôt. Ou est-ce que notre amour va nous pousser à prendre des risques? Et même aller chercher dans le feu. Non? Notre amour que l'on a pour Dieu, pour Jésus, va nous conduire jusqu'où? On est prêt à le servir, mais jusqu'à quel prix? Lui a tout payé pour nous. Et nous, jusqu'où sommes-nous prêts d'aller? Lui s'est donné lui-même. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il est allé jusqu'à la croix pour nous servir, pour nous libérer, pour nous affranchir. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Est-ce que nous lui avons dit, Seigneur, je te suivrai? Est-ce que c'était juste des mots? Est-ce que nous avons croisé les doigts? On fait ça, là, pour dire, je promets, mais je croise les doigts, donc ça compte pas. Non? Non, ça se fait pas, ça. On se fait, vous savez, on dit, oui, mais ça comptait pas parce que j'étais trop ému par le chant, alors c'est tout, mais sinon, je le pensais pas vraiment. Vous savez, quand on a signé pour le mariage, c'est signé. Ah, je le pensais pas. Hey, mais t'as signé, là, t'es engagé maintenant, t'es marié. Comprenez que quand on dit à Jésus, je vais te suivre, jusqu'où on est prêt à aller maintenant? Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais ceux qui suivent Jésus, le Fils de l'homme n'a rien pour reposer sa tête. Et même après, un autre dira, mais permets-moi avant de venir de m'occuper de mes affaires. Et il y a un mort dans ma famille, permets-moi d'aller ensevelir le mort. Et quand Jésus répond, la manière dont il répond, ça veut dire quelque part, maintenant que tu es à la vie, laisse les morts s'occuper des morts. Toi, tu es à la vie maintenant. Comprenez que certains disent, moi je veux suivre Jésus, mais j'ai des affaires dans le monde qu'il faut que je m'occupe encore. Moi je veux bien suivre Jésus, mais il y a des affaires de mon ancienne vie qu'il faut que je m'occupe, qu'il faut que je liquide. Il faut que je m'occupe de ces affaires-là encore. J'ai mon commerce, j'ai mes affaires qui ne sont pas très légales. Seigneur, je sais que ce n'est pas bien, mais je vais m'en occuper, il faut que je règle ça, et après je te suivrai. Seigneur, laisse-moi finir avec ces affaires-là, et je te suivrai. Et Jésus répond, laisse la mort s'occuper de la mort. Laisse les morts s'occuper de leur mort, et toi, suis-moi. En d'autres termes, quand on vient à Jésus, quand on décide de suivre Jésus, c'est un changement radical. Il ne peut pas y avoir de compromis. Il ne peut pas y avoir de dualité. Il ne peut pas y avoir deux choses en disant « Je suis avec la vie et je suis avec la mort en même temps. Je suis avec Jésus et je suis avec le prince des ténèbres en même temps. Je suis avec la vérité, mais je vis encore dans le mensonge. Ce n'est pas possible d'être des deux côtés à la fois. » Et Jésus dit, si vraiment tu veux me suivre, laisse la mort s'occuper de la mort. Laisse les morts s'occuper de leur mort. Et toi, suis-moi. Et comprenez ce soir qu'on ne peut pas être chrétien à moitié. Je sais qu'il y a du jus d'orange à 5%, mais il n'y a pas de chrétien à 5%. Vous me comprenez? Un chrétien, c'est du 100%. Non, vous ne connaissez pas le jus d'orange où il n'y a que 5% de jus d'orange dedans. Le reste, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand on lit sur les boîtes, il y a 5% de jus d'orange dans le vrai jus d'orange. On dit, un chrétien, ce n'est pas du 5%. Alors, vous n'avez pas l'air convaincu, là.
On est d'accord.
Est-ce que vous connaissez cette expression, le chrétien du dimanche? Non? Je suis un chrétien du dimanche, moi. Le dimanche, je suis chrétien. Le lundi... Le mardi, en fait lundi, je suis encore un peu chrétien parce que c'est pas trop loin. Le mardi, ça se refroidit un peu. Le mercredi, puis ça diminue en pourcentage. Puis quand on revient au dimanche, ça remonte. Non, être chrétien, c'est vivre avec Dieu à 100%. Et c'est pas dire, j'ai un pas dans la mort et un pas dans la vie. Soit tu es mort, soit tu es vivant. Le serviteur du centenier romain ne s'est pas trouvé paralysé et dire « je souffre plus ». Souvenez-vous, il était paralysé et il souffrait beaucoup. Et Jésus n'est pas venu en disant « bon, je vais arranger ton affaire de souffrance, mais tu vas rester paralysé ». Tout a changé dans sa vie. Il souffre plus et il n'est plus paralysé. La belle-mère de Pierre, Jésus n'est pas venu lui dire « écoute, je vais te donner de l'aspirine, ça va aller bien pendant 6 heures ». Et après, ça va revenir. Non, c'est parti, c'est définitif, c'est une fois pour toutes. Mais de la même manière dans notre vie, quand on est au contact de l'Évangile, quand on accepte Jésus dans notre vie, il se charge de nos souffrances, il se charge de notre infirmité, il se charge de nos maladies, et c'est réglé. C'est pas à moitié, c'est pas seulement un peu. Il prend pas un peu sur lui, il a tout pris sur lui, afin que nous soyons libres, affranchis. De la même manière, quand nous décidons de le servir, et quand nous lui disons, Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, ce n'est pas pour un petit peu, mais c'est pour tout. C'est pour toute notre vie. Nous sommes dans ces 40 jours, nous parlons de ministère, nous parlons de servir, parlons d'implication dans le service de Dieu. Jésus, lui, est notre exemple suprême. Et laissez-moi vous dire ce soir, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que Jésus a tout donné pour vous, afin que vous ayez la vie. Pas un peu de vie. Jésus va dire, afin que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Si simplement vous ouvrez la porte de votre cœur, que vous dites, Seigneur, viens changer ma vie, viens dans mon cœur, tout va changer. Et quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Soit il y a des ténèbres, soit il y a de la lumière. Il ne peut pas y avoir les deux en même temps. Non? Soit il fait noir, soit il y a de la lumière. Vous allez dire, oui, mais s'il y a un tout petit peu de lumière, je vais seulement vous dire que la lumière de Jésus, ça brille. Hein. Alors, s'il y a cette lumière, Jésus, la lumière du monde, c'est comme ça qu'il se présente à un moment à ses disciples, si Jésus, la lumière du monde, vient briller dans votre vie, les ténèbres ne sont plus là. Et il n'y a pas de cohabitation possible. Il veut changer radicalement votre vie. Et si quelqu'un ce soir dit, oui, mais moi, ma vie, il y a encore des ténèbres et il y a un peu de lumière, il y a une anomalie quelque part. Que ce soir, les ténèbres disparaissent et que la lumière apparaisse. Que Jésus soit au centre de votre vie et que vous puissiez lui dire, Seigneur, je veux te suivre, toi. Et les autres choses, les choses du monde, ça m'intéresse peu. Et ces choses disparaissent. Quand la lumière de Dieu brille au plus profond de nos cœurs. Et qu'on réalise aussi, et on le voit au travers de ces différents petits récits qui sont l'un à la suite de l'autre, qu'il y a le mot service, mais que le service est là d'une manière répétitive, que oui, le quatrième objectif de notre vie, c'est bien servir. Qu'on puisse réaliser que si on ne sert pas Dieu, on ne sert à rien. Quelqu'un posait la question, et c'est juste du gros bon sens, en disant, mais pourquoi, dès que l'on est converti, on n'arrive pas directement au ciel? Puisque la question ultime de notre vie, c'est de dire, où allons-nous passer l'éternité? Après la mort, de quel côté allons-nous? Certains vont dire, la vie sur la terre sert justement à définir, identifier le lieu où nous allons passer notre éternité. Sur la terre, présentement, en fonction de nos choix, de notre foi, nous allons décider de quel bord nous allons aller après la mort. Est-ce que vous êtes au clair avec ça? Bon. Mais une fois que le choix est fait, une fois que l'on sait, une fois qu'on a décidé, qu'on a accepté Jésus comme sauveur, qu'on croit dans son nom, qu'on a reçu le salut, le don de Dieu, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas au ciel tout de suite? Non? Ça aurait de l'allure. Seigneur, je crois en toi. Hop, on arrive au ciel. Pourquoi rester sur la terre? Puisque le choix est fait maintenant. Non? Et si on est encore sur la terre, il y en a qui ont déjà fait le choix? Oui? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous n'êtes pas au ciel là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse encore sur la terre? Parce qu'on a quelque chose à faire. Et il y a un service à accomplir encore. Voyez-vous, si on ne servait à rien sur la terre, il y a bien longtemps qu'on serait déjà au ciel. Mais si Dieu vous laisse sur la terre encore, c'est parce que vous avez une mission à accomplir. Certains l'ont compris alors qu'ils sont passés à un cheveu de la mort. Certains l'ont compris alors qu'ils se sont retrouvés à l'hôpital à un cheveu de la mort, que je l'ai entendu bien souvent. Des gens qui disent « j'aurais pu partir, mais Dieu a décidé de me laisser parce que j'ai encore une mission à accomplir. Parce qu'il y a encore du monde autour de moi qui a besoin d'entendre parler d'une bonne nouvelle. Parce qu'il y a encore des gens dans ma famille qui ont besoin d'un témoignage. Qui ont besoin de moi. Je suis là pour les servir. » Et ceux qui passent à un cheveu de la mort, il y en a beaucoup qui comprennent ces choses-là. Mais pour nous, même si on n'est pas passé à un cheveu de la mort, qu'on puisse comprendre ce soir qu'il y a une mission, des œuvres que Dieu a pratiquées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Je vais inviter Marie-Paul à venir au piano et on va ensemble nous placer comme tout à nouveau dans la présence de Dieu et laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. J'aimerais que cette parole puisse vraiment nous amener à réfléchir sur notre implication, sur notre service. Est-ce que nous sommes ce soir des serviteurs paralysés? Est-ce que nous sommes ce soir des serviteurs souffrants? Est-ce que nous sommes ce soir une servante avec la fièvre? Jésus est celui qui guérit. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller avec lui? Qu'on lui dise, Seigneur, je te suivrai. Et ce n'est pas là des mots seulement, mais jusqu'au bout. Je veux te suivre. Alléluia.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.